Bonjour Michel Bussy.
Bonjour.
Votre nouveau livre, Les ombres du monde, sonde le génocide rwandais à la manière de Michel Bussy, c'est-à-dire avec du suspense et des twists. Le Rwanda est-il pour vous un contexte pour le livre où le but était vraiment d'explorer ce pan de l'histoire contemporaine en tissant une histoire autour ?
Non, je suis vraiment parti de l'histoire du Rwanda, du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est un fait dramatique que j'ai étudié depuis très longtemps quand j'étais professeur de géographie politique. Et c'est vrai que l'idée de la fiction, c'est-à-dire d'un couple, enfin d'une histoire entre un militaire français et une jeune démocrate Tutsi, est venue assez tôt. Et donc j'ai tissé effectivement cette histoire et ses secrets, ses twists, ces rebondissements autour de la dimension historique. Mais c'est vrai que cette histoire du génocide des Tutsis, mais surtout de l'implication de la France et de ce qu'on ne sait pas encore, c'est-à-dire un attentat qui provoque ce génocide dont on ne connaît pas les commanditaires. Bon, il y avait matière à pratiquement un roman d'espionnage et je dirais presque que les faits historiques se suffisaient à eux-mêmes.
Alors d'autres ont écrit sur le Rwanda et ce génocide, Jean Hatzfeld, Patrick de Saint-Exupéry, Gaël Faye notamment, mais votre manière à vous de le faire est très différente. Autour, en plus de suspense, votre but secret, c'est vraiment d'amener un très grand public à mieux connaître ce génocide ?
Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que des gens comme Patrick de Saint-Exupéry, par exemple, m'ont un peu donné carte blanche quelque part, m'ont soutenu dans ce projet. L'idée, c'était de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler du Rwanda, mais qui n'ont jamais lu effectivement d'essais politiques ou de livres de journalistes ou même encore de rapports parlementaires. Et donc, dans ce roman, je vise le plus grand public possible et surtout en gardant cette idée que c'est un thriller, c'est un roman d'aventure, c'est un roman où on a, j'espère, beaucoup d'empathie pour les personnages, on va trembler pour eux jusqu'au bout, il y a du secret de famille, il y a des rebondissements. J'espère que c'est un livre où on a une grande palette d'émotions quand on le lit, mais surtout, quand on le referme, mon but c'était quand même que le lecteur ait, entre guillemets, tout compris de ce génocide qui est d'une extrême complexité, qui a des causes multiples, lointaines et proches. Et généralement, ces causes, il faut se plonger dans des ouvrages très complexes, finalement, pour les comprendre. Et justement, le principe, c'était aussi, par ce thriller, de faire œuvre de vulgarisation, quelque part. Et c'est réussi dans un sens où le retour de lecteurs, c'est à la fois qu'ils ont eu cette émotion et à la fois qu'ils se disent « mais je ne savais rien ». Et j'ai l'impression d'avoir compris.
Pourquoi le Rwanda résonnait pour vous à ce point ?
Moi, j'avais 30 ans à peu près quand le génocide s'est déroulé. Et je crois très sincèrement qu'il n'y a pas d'autre moment dans l'histoire de la France où la France a été aussi proche d'un génocide qui a fait 1 million de morts. Enfin, j'en suis persuadé, une tâche dans l'histoire de France, une tâche qui restera dans l'ensemble de l'histoire de la France, et que c'est encore trop proche pour qu'on puisse complètement en connaître tous les tenants et aboutissants, même si, bien sûr, Gaël Faye étudiait au collège, même si les élèves, même au lycée, entendent parler du génocide du Rwanda. Mais pour moi, oui, on est face sans doute au plus gros scandale de la Ve République, on est face à toute une série d'hommes politiques, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite, qui à un moment donné ont été impliqués, et qui, s'ils n'ont pas, évidemment, de complicité avec le génocide, leur responsabilité est tout de même très forte et il est, à mon avis, nécessaire aussi que les romanciers apportent leur pierre à l'édifice, exactement comme on a beaucoup écrit sur la guerre d'Algérie, sur la décolonisation, sur la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, la fiction et, je dirais, les journalistes ou les scientifiques doivent marcher de concert pour entretenir la mémoire et aussi inciter les citoyens à exiger la vérité.
Vous faites un lien à la fin du livre entre votre métier d'écrivain et ce génocide. Vous dites, écrire des livres policiers pousse à se questionner sur les racines du mal. S'intéresser à ce génocide, c'est se pencher sur le mal absolu. Vous avez un peu mieux compris les racines du mal absolu en écrivant ce livre ?
Non, je crois pas que je les ai compris. Quand je dis qu'on cherche à expliquer la complexité d'un génocide, j'ai cherché à expliquer la mécanique. Un génocide, c'est pas une guerre tribale qui explose comme ça. C'est quelque chose qui est planifié longuement, préparé par une poignée de génocideurs qui vont faire des plans, qui vont armer, qui vont dresser des listes de gens assassinés qui peuvent être des opposants. Donc un génocide, tous les génocides de l'histoire, c'est effectivement des choses qui sont minutieusement préparées. Après, ce qui est très particulier dans le génocide rwandais, c'est qu'effectivement, c'est un génocide où il n'y a pas de motif religieux, où il n'y a pas de motif ethnique, où il n'y a pas de motif même territorial, pas de motif linguistique. Les Hutus, les Tutsis partageaient absolument la même vie et c'est une construction virtuelle, en fait, une construction par la colonisation qui va être utilisée pour créer une haine. Donc, quelque part, là, on est dans presque dans l'absurdité absolue, c'est-à-dire que l'un des plus grands génocides va s'opérer sur une différence qui n'existe pas. Donc oui, on est quelque part à la racine du mal parce qu'on se dit que si ça a été possible un jour, eh bien ça peut toujours se reproduire et j'espère que ce roman, c'est aussi une petite pierre à l'édifice de se dire attention quand on attise la haine, attention quand on met l'accent sur la différence, qu'il faut manipuler ces concepts effectivement de haine de l'autre avec énormément de précautions. Et puis c'est il y a 30 ans, évidemment. Après l'Holocauste, après la Shoah, on s'est dit plus jamais ça, un génocide peut-être n'est plus possible aujourd'hui. Et le Rwanda s'est déroulé alors que c'était un pays très surveillé par l'Occident, où notamment des missionnaires catholiques étaient très présents, il y avait beaucoup d'ONG, et ça n'a rien pu empêcher.
Tout dépasse l'entendement dans cette affaire, jusqu'au point de départ de ce génocide qui est un attentat contre l'avion du président rwandais le 6 avril 1994. On ne sait toujours pas vraiment qui a tiré sur cet avion, la boîte noire a disparu. La réalité dépasse la fiction sur tous les plans dans cette histoire.
Oui, c'est un vrai récit d'espionnage, hein, puisque là, il y a un vrai attentat, un peu comme qui a tué Kennedy. Bah, voilà, là, qui a tiré sur le président Habyarimana et déclenchant, enfin, c'est l'étincelle qui déclenche le génocide. Il y a eu beaucoup de rapports, hein, il y a eu beaucoup de juges antiterroristes qui ont étudié en France et partout dans le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas avec certitude, même si l'hypothèse principale, hein, celle du juge Trévidic, c'est que ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion du président, puisque les deux missiles seraient partis du camp qu'ils gardaient. Mais là encore, on ne connaît pas exactement qui sont les commanditaires, qui a acheté ces missiles, et surtout on ne connaît pas l'implication éventuelle de militaires français ou de mercenaires français qui étaient extrêmement proches effectivement de cette garde présidentielle qui aurait assassiné leur président.
Il y a donc tout ça dans ce livre, mais c'est du 100% Michel Bussy, je le disais, que vos fans s'y précipitent. Il y a des rebondissements, des surprises, de l'action autour de vos personnages, Espérance, Jorik, Aline et Maë. Et puis le titre d'une chanson, cette fois c'est tiré de Téléphone. C'était pas intimidant de mettre des personnages dans ce contexte-là si important? Est-ce qu'il y avait un poids supplémentaire par rapport à d'habitude?
Oui, énorme, parce que c'est la première fois que dans un de mes romans, il y a des personnages réels. Je mélange ces faits réels avec ma fiction. Et oui, c'était très impliquant parce qu'à un moment donné, quand on écrit, on ressent un peu la force des mots. Et c'est vrai que, par exemple, dans ce roman, enfin, c'est à peu près à la mi-roman, quand le génocide éclate et quand mes héros comprennent que ça y est, ce qu'ils redoutaient commence et que la chasse va commencer, là je ressentais le poids des mots. J'étais avec mon héroïne Espérance, avec sa fille Aline, et donc oui, je ressentais cette force là et puis les faits sont tellement terribles que justement la littérature, j'espère, permet, je dis pas de les aseptiser ou je dis pas de les euphémiser, mais en tous les cas, chaque lecteur peut convoquer les images qu'il veut. J'ai essayé aussi de ne pas du tout faire un roman sensationnaliste, de ne pas en rajouter sur l'hémoglobine, simplement de faire ressentir la peur que peut avoir tout fugitif qui cherche à survivre. Et donc je pense aussi que la littérature, pour ça, a un rôle à jouer par rapport à des gens qui ne pourraient pas logiquement voir des images qui seraient trop fortes, telles qu'on les a vues, notamment juste après le génocide.
Michel Bussy, tous ceux qui nous écoutent sont sur la route. J'aimerais qu'on les emmène sur les routes rwandaises. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du Rwanda et de sa géopolitique en parcourant ces routes?
Alors, c'est assez extraordinaire, les routes du Rwanda. D'abord, il faut rappeler que le Rwanda, c'est un petit pays. C'est la taille d'un département français. On peut être au nord du Rwanda, là où on voit les gorilles sauvages, et 3 heures après, on est à Kigali, la capitale, qui est à peu près au centre du pays. C'est le pays des 1000 collines, et donc il y a ceci de très très particulier que sur une grande partie du pays, il n'y a jamais de territoire plat. On passe son temps à descendre et monter. Le Rwanda est aussi un pays sûr. Certains disent même que c'est une dictature, en tout cas au moins un pays à régime autoritaire. Mais en tous les cas, c'est sûr, c'est que les routes sont bitumées. Il y a beaucoup de policiers sur le bord des routes. Il y a des radars absolument tous les 3 kilomètres. Donc ce n'est pas du tout un pays où il est dangereux de circuler. Moi, j'ai circulé tout seul en louant une voiture et je n'ai jamais ressenti de danger particulier. Et par contre, c'est le pays le plus dense d'Afrique. On est dans des densités proches des densités asiatiques. On est à 500, 600 habitants au kilomètre carré. Donc, il y a du monde partout. Et notamment du monde en permanence sur le bord des routes. Donc, on passe son temps à croiser des gens qui marchent, à croiser des gens qui poussent des vélos, qui les poussent dans les montées et qui les retiennent dans les descentes. Des vélos qui sont chargés de branches, d'eau, de matériel divers. C'est un pays qui reste très pauvre si on sort de Kigali. Donc, eh bien oui, on croise en permanence des enfants qui font 5-6 kilomètres avec des bidons de 5 litres d'eau dans chaque main pour aller chercher de l'eau. Donc voilà, donc c'est un pays extrêmement vivant, extrêmement coloré. Les paysages sont sublimes. Et évidemment, on a l'impression que ce pays s'est reconstruit. Alors qu'effectivement, il y a 30 ans, 1 million de personnes, c'est-à-dire à peu près une personne sur 6, a été assassinée et que pratiquement tous les gens qui ont survécu ont vu des crimes. On dit notamment que 80% des enfants ont vu quelqu'un se faire tuer devant leurs yeux. Donc, c'est aussi une expérience humaine assez intense de voir comment un pays peut se reconstruire et finalement s'ouvrir au monde alors qu'il a connu un drame de façon aussi récente. Donc, c'est un voyage dont on ne ressort pas indemne. Et puis, je pense, oui, que le Rwanda a fait aussi un gros effort pour justement être une des vitrines de l'Afrique et parmi ces vitrines, bah, effectivement, c'est l'idée qu'on puisse circuler relativement facilement, sans effectivement qu'il y ait des nids de poules, etc. partout. Ça fait partie de cet effet vitrine que le Rwanda voulait montrer, effectivement, qu'il s'était reconstruit. C'est souvent le cas, d'ailleurs, de pays qui ont subi un grand, grand traumatisme. Eh bien, la reconstruction passe aussi par le fait de pouvoir montrer au monde entier que s'ils viennent, ils seront bien accueillis et ils pourront circuler.
Et Kigali, parce qu'on a souvent cette image des très grosses villes africaines où la circulation est complètement anarchique. Est-ce que c'est le cas ou tout ça se passe à peu près comme dans le reste du pays, on circule bien ?
Non, c'est le cas. C'est, évidemment, Kigali est une grande fourmilière avec de très grands ronds-points. C'est une ville en plus en hauteur, donc voilà, on monte et on descend. Donc il y a cette dimension fourmilière avec sans doute cette différence. Comme je disais, Kigali se veut comme un peu la Smart City. Voilà. Et ce qui fait que c'est un pays très sûr, c'est un exemple, j'en parle je crois dans le roman, tous les motards portent des casques.
Enfin, oui, c'est ça, on ne fait pas d'attraction routière.
Voilà, ceux qui connaissent un peu l'Afrique ou l'Afrique de l'Ouest, voilà, le port du casque n'est pas toujours très respecté. À Kigali, a priori, pratiquement tout le monde ou presque tout le monde porte un casque, souvent rouge. Voilà, autre exemple, il n'y a pas de papier qui traîne. C'est un pays qui a signé des chartes anti-plastique. Même quand vous êtes dans l'avion, on vous demande de ne pas emporter vos sacs plastiques dehors. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un pays où il y a très très peu, c'est un pays pauvre, mais où il y a très peu de saleté apparente. Donc ça aussi, c'est quelque chose pour ceux qui connaissent l'Afrique, il y a quelque chose de différent. C'est ce côté rassurant pour l'occidental et qui l'oblige un petit peu à chercher à comprendre.
Michel Bussion demande souvent à notre invité quel genre d'automobiliste il est. Alors moi, je peux témoigner que vous êtes parfait. On est parti en covoiturage ensemble pour enregistrer un épisode de notre podcast. J'invite nos auditeurs à découvrir. Vous partiez à ce moment-là en dédicace. Là, vous allez sillonner la France plus que jamais dans les prochaines semaines, non ?
Oui. Jusqu'en décembre, je vais beaucoup, beaucoup signer. Donc oui, je vais être beaucoup sur la route par différents moyens de transport.
Je parie que ce livre, il va être important dans votre carrière, il va marquer votre œuvre. Est-ce que vous sentez déjà qu'il se passe quelque chose autour de lui, une attente encore plus grande que d'habitude peut-être ?
Oui, en tout cas, les retours de lecture sont un peu différents, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, je ne sais pas si c'est l'effet waouh, l'effet pépite, mais enfin les gens semblent beaucoup plus émus que sur d'autres romans qu'ils avaient aimés, mais là il y a cet effet, un voyage émotionnel beaucoup plus intense. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai eu envie de le sortir pour la rentrée littéraire, parce que c'est un livre que peut-être dont on a envie de se souvenir, peut-être plus que des lectures d'été qu'on lit et puis dont on passe très vite à autre chose. Voilà, c'est un livre qui, j'espère, est impliquant.
Michel Bussy, vous signez Les Ombres du Monde aux Presses de la Cité. C'est déjà le grand succès de cette rentrée littéraire et on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.